Jean-Noël Cordier fait partie de notre cercle, c'est en être un membre éminent par sa haute culture et son amour de la poésie. Il a fait partie du comité de rédaction des revues des Palmes académiques. Il y a publié quelques articles, notamment « Les mystères de la dame à la licorne » et a fait partie du jury de l'AMOPA, association des membres de l'ordre des Palmes académiques, pour la poésie. Il était vice-président de la Société des poètes français. Il a notamment fait des conférences comme « Mozart et la franc-maçonnerie » ou « Forêt et ses poètes ». Il a publié en poésie « Au souffle des jours enfuis » en 2010 et « Archives du vent » en 2019.
Entre autres.
Il a publié de nombreux livres en prose sur différents thèmes en lien avec la chevalerie et l'ésotérisme. Et il faut noter quand même qu'il est le préfacier d'un livre consacré à Aliénor d'Aquitaine, paru en 1988 par Jean d'Ariège. Nous savons tout. Nous te laissons la parole, Jean-Noël.
Bon, eh bien, comment dirais-je ? Monsieur le Président, mes chers amis, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je commence d'abord par vous souhaiter une bonne année et vous remercier d'être venu entendre parler de Florian, qui est un écrivain qui est aujourd'hui totalement oublié, ou presque, et pour de justes raisons d'ailleurs. Et Florian, alors je m'empresse de vous dire que je ne suis pas un spécialiste de Florian. Comment suis-je venu à Florian pour justifier mon intervention de ce jour? Parce que Florian est un compatriote gardois. Il est né, je vous le dirai, à Sauve, à côté, entre Anduze et Saint-Hippolyte-du-Fort. Le château de Florian existe toujours aujourd'hui, où nous faisons quelques manifestations estivales. Et en plus, oui, voilà. Et donc, on m'avait demandé, une de mes amies d'un cercle littéraire du Gard m'avait demandé, pour ses amis, elle m'a dit, écoute, toi, tu pourrais nous faire quelque chose sur Florian. Mais je connaissais un peu Florian, mais sans plus. Bon, alors je me suis attelé à... Bon, j'avais déjà lu beaucoup de choses de Florian. Mais bon, j'ai rassemblé les connaissances que je pouvais avoir, la mémoire de ce que j'avais pu lire, et je me suis replongé dans des documents. Et finalement, j'ai tenté, et vous allez le voir, de faire une sorte de synthèse sur l'homme, Florian, qui était-il, et également sur une partie de son œuvre. La conférence complète, qui serait sans doute un peu longue et qui vous lasserait, comportait une analyse de sa pastorale Estelle. Mais Estelle intéresse surtout les Gardois, parce que cette pastorale de 1787, cette pastorale, comment dirais-je, situe son intrigue sur la vallée du Gardon. Voyez-vous, que peu d'entre vous connaissent, mais que les Gardois, évidemment, connaissent. Voilà. Et alors, j'insisterai en fin de parcours sur les fables de Florian, qui est à peu près tout ce qui reste aujourd'hui de lisible de l'œuvre de Florian, bien que son œuvre comporte une vingtaine de volumes. Voilà. Pour un écrivain mort à 35 ans. Non, pardon, 39 ans. Alors, évoquons Florian. Dans ses causeries du lundi, le critique Sainte-Beuve, 1804-1869, définit ainsi Florian. Je le cite. Un écrivain aimable, populaire, cher à l'adolescence et à l'enfance, et dont le nom ne s'offre plus guère ensuite à nous que pour faire sourire d'un sourire de demi-dédain notre maturité. Voici, donc voilà donc ce qu'a écrit Sainte-Beuve. Et il le qualifie plus loin de talent, je le cite, qui ne fut ni très élevé, ni très étendu, mais qui fut modeste, naturel, sincère, et qui se montra gai, vif, fertile, agréable et fin, lorsqu'il osa être tout entier lui-même et qu'il ne sortit pas de ses justes emplois. Fin de citation. Alors il est vrai que si le XVIIIe siècle connut de très nombreux poètes, même si on ne le sait pas, ceux-là ne sont point à la hauteur ni de ceux de la Renaissance, et encore moins de ceux du XIXe siècle. Toutefois, Florian reste encore aujourd'hui connu pour ses 5 livres de fables, 89 au total, publiés en 1792 en pleine tourmente révolutionnaire, l'année même de la chute de la monarchie. Le reste n'est plus lu. Les œuvres de Florian sont cependant nombreuses et comprennent celles qui furent publiées de son vivant et celles qui furent publiées à titre posthume une dizaine d'années après sa mort en 1794 sous le consulat et l'Empire. Les premières éditions des œuvres complètes lors du premier quart du XIXe siècle comprennent environ une vingtaine de volumes qui vont de la comédie en passant par la pastorale, la fable, l'essai historique jusqu'à des mémoires. Œuvre importante donc pour un auteur mort à 39 ans. Œuvre diversifiée qui fut goûtée jusqu'à la fin du XIXe siècle, si l'on en juge par les nombreuses rééditions, puis qui est brusquement tombée dans l'oubli. Alors, Jean-Pierre Clarisse, ou Clary, de Florian, naquit donc à Sauve, dans l'actuel département du Gard, le 6 mars 1755, et non pas au château de Florian, comme on l'a souvent supposé, et encore moins à Châtenay-Malabry, comme son ami Condorcet le prétendait. Par son père, il est issu de la petite noblesse de province. Ce père était resté 11 ans au service du maréchal Maurice de Saxe. Les armes de sa famille sont les suivantes. D'argent, à l'aigle de sable, autrement dit noir, au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or, précise l'armorial de Riestap de 1884. Le tout timbré d'une couronne de marquis. Et je les ai apportés pour que vous puissiez les voir, les armes du marquis de Florian, qui sont aujourd'hui reprises par la petite commune de Logrian, dans le Gard. Il s'est approprié pour son logo les armes du seigneur du lieu. Sa mère, Gillette Salgue, de famille languedocienne bourgeoise et protestante, mais aussi castillane, meurt 2 ans après sa naissance, en donnant naissance à un second fils. Florian fut élevé dans son souvenir, subit son influence, et son œuvre porte la marque espagnole, en particulier avec la pastorale Galatée, imitée de Cervantes. Une libre traduction ou adaptation du Don Quichotte que ses contemporains et la postérité jugèrent d'ailleurs de peu d'intérêt. Ainsi que les mémoires d'un jeune espagnol qui ne sont rien d'autre que l'histoire de sa vie transposée en Espagne. Alors cette influence de l'Espagne se retrouve encore dans l'avant-propos de la nouvelle intitulée Célestine, qui raconte les malheurs d'une orpheline de Grenade et dans lequel Florian fait l'éloge de l'Espagne, de sa littérature et de sa langue. Sa mère étant morte, et vous savez que la mort d'une femme en couche était fréquente au XVIIIe siècle, Jean-Pierre Clarisse est donc élevé par une nourrice. Son père le place à 4 ans en pension à Saint-Hippolyte-du-Fort, si vous connaissez le Gard, peut-être connaissez-vous cette commune, où il apprend seulement à lire et à écrire. Son instruction, précise un des biographes de Florian, André Bouys, et je le cite, semble bien d'ailleurs avoir manqué de profondeur. Son œuvre s'en est ressentie, continue-t-il, car seules de fortes études auraient été capables de réfréner les excès d'une facilité remarquable mais pernicieuse. » Fin de citation. Ensuite, son père le garde auprès de lui au château de Florian, puis le confie à une institution à Lunel, dans l'Hérault actuel, que peut-être vous connaissez aussi, pas loin de la Grande Motte, et dont les méthodes pédagogiques, assez simplistes, reposaient presque uniquement sur le psittacisme. Psittacisme, perroquet qui répète. Hein. À 10 ans, en 1775, il part pour Ferney. Et ce voyage aura une très grande influence sur sa formation et sur la formation de son esprit. Son oncle avait en effet épousé l'une des nièces de Voltaire, sœur de Madame Denis. Le jeune Florian plaît à Voltaire. Plaît à Voltaire qui le surnomme Florianet. Les thèmes latins que Voltaire l'aidait à faire sous main, rapporte encore Sainte-Beuve, et qu'ensuite le père Adam, son précepteur bénévole, trouvait excellent, le père Adam les montrait comme un chef-d'œuvre à Voltaire, qui disait en souriant que ce n'était pas mal pour un enfant de cet âge, mais c'était Voltaire qui les avait faits. Florian a donc quitté les basses Cévennes sans imaginer le moins du monde de ce voyage. Par une suite de ricochets qui ne sont pas poétiques, mais circonstanciels, le détacherait pour toujours de sa terre natale. Ensuite, à Paris, il bénéficie des leçons d'un précepteur, mais préfère les lectures que lui indique sa tante et la comédie. À 13 ans, il entre comme page chez le duc de Penthièvre, arrière-petit-fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, à la tête d'une immense fortune et homme très influent et beau-père du duc d'Orléans, le futur Philippe Égalité. Le duc de Penthièvre surnomme Florian Pulcinella, comme fera Stravinsky plus tard pour sa fameuse suite. C'est à cette époque qu'il éprouve ses premières velléités sentimentales pour une nièce du poète Gresset, vous savez, l'auteur de Verveyre. Et chez le duc de Penthièvre, qui voyage beaucoup dans ses nombreuses terres, il découvre l'île de France. À 16 ans, il intègre l'école d'artillerie de Bapaume, dans l'actuel département du Pas-de-Calais. Mais il est bientôt renvoyé dans sa famille pour cause d'indiscipline et de trop nombreuses frasques amoureuses qui causent scandale dans cette petite ville de province. Il les évoque avec esprit, d'ailleurs, ces frasques, dans les mémoires d'un jeune Espagnol. De son passage à Bapaume, il a gardé des habitudes de soudard, hein, et dit-on le goût de battre les femmes. Ce ne serait pas bien vu aujourd'hui. En 1773, il devient sous-lieutenant au régiment de cavalerie de Penthièvre. Il s'installe donc à l'hôtel de Toulouse, où il jouit d'un jardin orné de statues et d'une volière dominant sa bibliothèque. Et c'est un Andusien, c'est-à-dire un habitant de la ville d'Anduze, que je connais bien, et pour cause, puisque j'y réside, n'est-ce pas, qui, M. Bousquet, qui en 1780 achète le château de Florian. D'ailleurs, titre anecdotique, je dirais que le château de Florian n'appartient plus à la famille Bousquet, mais pas depuis un certain temps, mais que les Bousquets, qui n'étaient que des rotiers enrichis, ont eu le culot de se faire appeler Bousquet de Florian jusqu'à des décennies fort récentes. Enfin, passons. Le poète avait en effet poussé son père à vendre le domaine de Florian dans le bassin du Vidourle, un petit fleuve qui se jette dans la Méditerranée entre la Grande Motte et le Brau du Roi. Et afin d'éteindre les dettes de son grand-père. En 1784, à la mort de son père, Florian se met en route pour le Languedoc. 13 jours de voyage, normalement. Il revoit Florian pour la dernière fois, occupé par des étrangers. Il vend l'héritage maternel du mât de Coutel à Durfort pour éteindre les dettes de son père au sieur Campbell de Sauve. Il maintiendra toutefois quelques liens avec sa province natale. En 1779, il écrivait en effet à son oncle « Ne craignez pas que jamais je puisse regretter une terre au fond des Cévennes. » Quelques lettres adressées à son ami M. Bruguier, soit à Marguerite Cuny, sa fidèle Margoton, nous le montrent très ponctuel, à payer à celle-ci une modeste pension de 100 francs. Et il lui avait cédé une maison avec jardinet à Durfort. M. Bruguier lui envoie régulièrement des fruits du pays, une boîte de figues et de marrons. Et Margoton, chaque année, engraisse une oie à son intention. Je me demande dans quel état elle devait arriver à Paris. À l'époque, il n'y avait pas de congélateur. Désormais, Florian partage sa vie entre le service du duc de Penthièvre, les salons parisiens, évidemment, où son esprit fait merveille, et une vocation littéraire qui se manifeste pour la première fois en 1779, n'est-ce pas ? Il a 24 ans, par le succès au théâtre italien, rien de moins, d'une charmante comédie, Les Deux Billets, dans la veine d'un Marivaux ou d'un Sodène. Vous savez, Sodène, le philosophe sans le savoir. À Paris, il subit l'heureuse influence du duc de Penthièvre, grand homme de bien qui répand partout ses bienfaits. Le 19 octobre 1788, il écrit par exemple à Madame de Labriche, et je le cite, « Je mène ici, à Vernon, au château de Vissy, que vous pouvez encore voir, château de Vissy, chez le duc de Penthièvre, une douce vie. Nous sommes très solitaires, ce qui me plaît chaque année davantage. Je lis mes auteurs espagnols, je travaille à mon cher Gonzague, et j'entends peu parler, nous sommes en 1788, des parlements et des états généraux. Le travail, la lecture, un peu de conversation remplissent toutes mes journées. C'est ainsi que j'aime à les passer. » Voilà. Florian fréquente les salons, par exemple chez Madame de Vimeux, et surtout Madame de Labriche, avec laquelle, on vient de le voir, il échange une correspondance intéressante entre 1786 et 1793. Il fait de fréquents séjours chez cette dernière au magnifique château du Marais, qu'on peut encore voir, qui appartenait il y a quelques décennies à Gaston Palevski, si certains s'en souviennent. Les divertissements ne lui font pas oublier ses travaux. Sa production littéraire, qui nous semble guidée surtout par les caprices d'une intempérante facilité, n'est point d'un rêveur insouciant, mais d'un travailleur tenace. Sa production est en effet considérable. Théâtre, genre pastoral, il écrit avec humour à Madame de Labriche, je le cite, « Je travaille peu, c'est-à-dire 7 ou 8 heures par jour. » C'est pas si mal, hein. Et l'un de ses biographes, Geoffrey, nous apprend, et je le cite, qu'il ne passait pas un jour sans travailler. Et que, et je le cite toujours, souvent il travaillait du matin au soir. En 1782, en effet, l'Académie française couronna l'une de ses œuvres, Voltaire et le cerf du Mont-Jura, où il condamnait le servage qui subsistait encore dans certaines régions de la Franche-Comté. Donc, 7 ans avant le début de la Révolution française. Et il ne serait aboli, ce servage, en Franche-Comté qu'à la Révolution. En 1784, il connaît son premier véritable succès avec sa pastorale Galatée. imité de Cervantes et qu'il accommode au goût du temps. La pastorale Estelle, appelée souvent à tort Estelle et Némora, est publiée en décembre 1787, notons-le bien, la même année que le célèbre Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, après de nombreuses lectures, évidemment, comme on le faisait à l'époque, dans les salons. Le succès immédiat que rencontre Estelle lui fait écrire à son oncle « C'est certainement ce que j'ai fait de mieux ». Je ne sais pas, moi, après l'avoir lu, si c'est ce qu'il a fait de mieux, mais enfin, on le pensait en ce temps-là. Le 6 mars 1788, au lendemain de son 33e anniversaire, il est reçu à l'Académie française contre le célèbre médecin Philippe d'Azyr. Il s'était donc fait un nom dans le monde des lettres, mais il savait parfaitement que sa consécration était en partie due à l'immense prestige de son prétendu grand-oncle Voltaire. Il devient donc titulaire du 29e fauteuil de l'Académie française, qui était avant lui celui du cardinal de Luynes, qui était né en 1703 et qui est mort en 1788, auquel il succède. Alors ce fauteuil est aujourd'hui occupé par Amin Malouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française, et qui y a d'ailleurs dans son livre « Un fauteuil sur la scène », lequel Amin Malouf évoque l'histoire de tous les occupants de ce fauteuil jusqu'à lui-même. Un petit livre très intéressant qui nous fait traverser 4 siècles d'histoire de France. Ce fauteuil, oui, je l'ai occupé par Amin Malouf. Alors, Florian, alors, ce que nous apprend Amin Malouf, c'est intéressant, Florian a failli être le dernier titulaire de ce 29e fauteuil, puisqu'à sa mort, personne ne fut élu, et pour cause, je continue toujours ce que dit Amin Malouf, c'est curieux, la compagnie fondée par Richelieu avait été supprimée par un décret de la Convention. 13 mois plus tôt, en août 1793, et ses bureaux au Louvre vandalisés et pillés. Il eut cependant un lointain successeur à ce fauteuil, un certain Jean-François Caillava, 1731-1813, qui admirait Florian et qui résidait aussi à Sceaux. À cet égard, à l'heure de sa mort, il exprima la volonté d'être inhumé à côté du fabuliste dans le cimetière de Sceaux. Comme, écrit Amin Malouf, si la crainte de voir se rompre la chaîne de succession avait suscité le désir de l'affirmer avec plus de force encore. Donc, cette année-là, en 1788, Florian reçoit également la croix, merci monsieur, la croix de Saint-Louis, la plus haute distinction militaire de l'Ancien Régime, considérée comme une préfiguration de notre actuelle Légion d'honneur. Ajoutons qu'en 1788, en 1778, pardon, année de la mort de Voltaire, 10 ans plus tôt, Florian avait été reçu dans la franc-maçonnerie, institution très en vogue au XVIIIe siècle, au sein de la prestigieuse loge Les Neuf Sœurs, autrement dit les Neuf Muses, dont faisaient partie, entre autres, Benjamin Franklin, Condorcet, l'astronome Lalande, Bailly, Voltaire ou Lavoisier, pour ne citer que. Tous ces bonheurs lui arrivaient à la fois. Et voilà ce qu'il écrit d'ailleurs, il en est parfaitement conscient. « J'ai obtenu en 3 semaines, écrit-il, à Boissy-d'Anglas, le 31 mai 1788, le brevet de lieutenant-colonel, la croix de Saint-Louis, mon fauteuil académique et une abbaye à 6 lieues de Paris pour une tente à boire religieuse à Arles. » Donc, il est vraiment gâté par le destin. Voilà. En 1786, les fables que vous connaissez encore sont mises en chantier. En 1789, Florian semble entrer dans les vues de la Révolution. Il est nommé, en août 1789, commandant de la garde nationale à Sceaux, localisée où il réside désormais. Pendant la tourmente révolutionnaire, disparaissent quelques-uns de ceux à qui l'unissaient des liens d'amitié. La princesse de Lamballe, n'est-ce pas ? Massacré le 3 décembre 1792, le duc de Penthièvre, qui meurt de mort naturelle, lui, il a de la chance, le 4 mars 1793, Rabaud-Saint-Étienne, premier président de l'Assemblée nationale, les protestants, fils de pasteur de Nîmes, guillotiné en décembre 1793, qui était un ami proche de Florian. Il travaille cependant à une traduction de Don Quichotte qu'il abrégea sous prétexte, tenons-nous bien, d'en affaiblir les tâches. Ce faisant, il attiédit la verve de Cervantes. Florian, certes, aimait Cervantes, mais ne l'admirait probablement point par ses grands côtés. C'est l'anecdote et les histoires burlesques de Don Quichotte qu'il ne fait que retenir. Florian, alors donc, en revanche, son précis historique sur les Maures d'Espagne dénote chez lui de véritables qualités d'historien. Mais, ce sont les fables publiées en 1792 qui ont assuré la durable renommée de Florian. En avril 1794, il est incarcéré suite à un décret de la Convention qui proscrivait de Paris et de la région parisienne les ex-nobles. Le 21 thermidor 1794, soit le 9 août, libéré, si Robespierre n'était pas tombé, je pense qu'il passait aussi à la casserole, il rejoint sa petite maison de Sceaux. Phtisique, c'était une maladie inguérissable, incurable à cette époque, la phtisie, la tuberculose des poumons. Phtisique depuis 1780, il écrivait d'ailleurs à ce sujet à Madame de Labriche le 26 août 1786, la phtisie, loin de mieux aller, a dégénéré dans un asthme complet qui me donne des migraines épouvantables. Alors, tant d'émotions affaiblissent sa santé. Un mois plus tard, le 13 septembre 1794, à l'âge de 39 ans, il est mort. Voilà, il est mort tout simplement. Voilà. De mort naturelle. Non, enfin, voilà. Alors, il recevait encore des visites à Sceaux. Par exemple, personnage que vous connaissez, qui n'était pas n'importe qui. Boissy d'Anglais, hein, un personnage historique important, et du poète Ducis, que peut-être, ou Ducis, que certains connaissent peut-être encore, en tout cas les connaisseurs du XVIIIe siècle le connaissent. C'est en bordure du parc de Sceaux que repose Florian, dans un jardinet où s'alignent aujourd'hui les bustes des félibres, au flanc nord de l'église, dans ce qu'il est justement convenu d'appeler le carré des félibres. Une souscription publique permet d'ériger un modeste site en grès surmonté d'un buste, œuvre d'un certain Foussinet, et pas un sculpteur inoubliable, et qui fut inauguré en 1838 sous la présidence d'un poète dramatique que l'on connaissait beaucoup en 1838, mais qui est aujourd'hui totalement inconnu, Nepomucène Le Mercier. Avec cette seule inscription, ici repose le corps de Florian, homme de lettres, point. Voilà. En 1879, c'est intéressant la suite, les félibres instituèrent une fête annuelle à la mémoire de Florian, qu'ils revendiquaient, à tort probablement, comme leur prédécesseur. Les parrains de cette manifestation étaient prestigieux, puisqu'il s'agissait de Frédéric Mistral, l'auteur de Mireille, bien sûr, ainsi que, et c'est plus surprenant, Ernest Renan, mais lui-même titulaire du 29e fauteuil de l'Académie française, donc lointain descendant de Florian. Et puis il y a aussi, dans cette première manifestation de 1869, il y a Anatole France, qui était encore un auteur assez jeune, mais connu, et puis Émile Zola. Donc, c'est quand même un beau parrainage. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ces premières manifestations que Zola prit la défense de Florian. Alors, voilà ce qu'il dit, Émile Zola, dans son discours. « J'ai bien, pour ma part, 5 ou 6 idylles sur la conscience. » Et là, il fait référence au pastoral de Florian, à Estelle et Némora, etc. « J'ai bien, dit-il, pour ma part, 5 ou 6 idylles sur la conscience. Et toujours la même Daphnis et Chloé, Paul et Virginie, Estelle et Némora, un couple de jeunes cœurs qui s'éveillent à l'amour, qui s'en vont par les sentiers dans le ravissement du soleil. Qui sait, mon Dieu, ce que seront devenus mes couples, parle de son œuvre à lui, Zola, là, quand ils auront 100 ans. Peut-être aurait-il plus de rides que les aimables moutons de Florian. On a regretté qu'il n'y eut pas de loup dans sa bergerie. Hélas, dans ma bergerie à moi, dit Zola, et prononce Zola, ne dira-t-on pas, dans ma bergerie à moi peuplée de loups, ne dira-t-on pas que j'aurais dû au moins y mettre un mouton. c'est ainsi qu'il ne faut point, et c'est Zola qui parle encore, qu'il ne faut point rougir de ses ancêtres lorsqu'ils n'ont que le ridicule d'être trop délicats et trop tendres, de voir la vie dans un rêve trop charmant, une vie de lumière, de bonne et d'éternelle félicité. Ce discours de Zola est cité par Amin Malouf dans son bouquin « Sur le fauteuil sur la scène ». Un siècle après la mort de Florian, à l'initiative de la Société scientifique et littéraire d'Alès, Alès, cité minière, qui est une cité minière dans le Gard autrefois, un projet de monument à Florian fut financé par une souscription publique. Les travaux en furent confiés à un certain sculpteur qui s'appelle Gaucher. La statue devait disparaître d'ailleurs en 1942 sous l'occupation pour fondre des canons. Hein, ce fut le destin de beaucoup de statues de bronze. Seul le socle en pierre a survécu. On ne pouvait pas le fondre, bien sûr. Donc, il a survécu. Son bas-relief qui représente Estelle et Némora a retrouvé son emplacement originel, place Gabriel Péri, dans un jardin de verdure et de fleurs. Je l'ai vu, ça agrémente ce petit jardin, très modeste d'ailleurs. Alban de Montvaillant, vous connaissez tous bien sûr Alban de Montvaillant, biographe de Florian. Non, vous voyez, j'ai dû chercher vraiment. Donc, biographe de Florian et maire d'Anduze, donc voilà, pas rien quand même, maire d'Anduze, eut l'ambition de créer dans cette petite ville des jeux floraux annuels, et pour leur inauguration, lors de la fête votive de 1869, il mit au concours l'éloge de Florian, bien entendu. Il y eut 29 envois, dont 3 en langue occitane. Mais la guerre de 1870 ruina définitivement ces jeux floraux éphémères. Quant au château de Florian, que je connais bien, qui est tenu par mes amis qui est viticulteur, sur 180 hectares de vignes, c'est pas mal, la Révolution, en le détruisant partiellement, a effacé tous les souvenirs. Aujourd'hui, le bâtiment central, sans style, vraiment très banal, est encadré de deux tours plus anciennes, dont l'une porte un cadran solaire. Devant le château, quelques lauriers roses végètent dans de grands vases vernissés d'anduze. Peut-être vous connaissez les vases d'anduze, ils sont assez connus puisqu'ils sont exportés un peu partout. Voilà. La propriété, comme je vous le disais, est devenue un domaine vinicole, d'un bon petit vin, qui s'appelle d'ailleurs le domaine de Florian, le vin du Languedoc. Et comment ?
Tu m'as pas apporté ?
Je suis venu par le train. Je ne voulais pas rapporter une caisse de, par le train. Bon, enfin. Quelques manifestations en faveur du poète s'y déroulent parfois, telles les Floriani, tous les deux ans, où j'ai eu l'honneur de temps en temps de faire un numéro. Voilà. Alors, toutefois, à présent d'évoquer l'homme et sa personnalité avant d'aborder les fables. Ça va, je ne vous ennuie pas, ça va, ça s'entend bien ? Bon. Alors, tentons à présent d'évoquer l'homme et sa personnalité. De taille, la taille petite, mais bien prise, la peau brune, les yeux grands et doux, la physionomie expressive, je ne sais quoi de vif et de spirituel répandu sur toute sa personne. Ce méridional brillant, expansif, séduisait, et qui a dans son regard et dans son cœur un peu de cette flamme qu'il doit à un sang espagnol, plaît aisément et aime à plaire, écrit André Bouys, un des biographes de Florian. Ses yeux, noirs et scintillants, n'étaient pas ceux du loup devenu berger, mais peut-être ceux du renard. La malice y dominait, écrit Sainte-Beuve. Ses nombreux amis nous rapportent que Florian était un personnage attachant. Dans la vie réelle, il préfère le rire. Le rire, écrit-il, Florian, que je prise autant que le bon La Fontaine prisait le dormir. Voilà ce qu'il affirme. Cependant, sa simplicité de cœur n'est point exempte d'ambition et de vanité. Dans ses souvenirs, le baron de Frénilly, on appelait d'ailleurs du Cépierre le baron de Frénilly, en laisse un portrait assez négatif, et je le cite. C'était un petit despote ambitieux, pétri d'amour propre, froid, égoïste et peureux, au point qu'au moment de la terreur, il en mourut. D'un autre côté, il tient à ce que toutes ses dettes, les dettes familiales, soient payées. Il abandonne aux créanciers toute la succession de son père et une grande partie de celle de sa mère. Il réalise tous ses biens, quelquefois à perte. Donc, ambigu comme personnage. Il est vrai que son existence à Paris ne connaît pas la gêne dont, sans doute enfant, il a été témoin sous le toit familial. Sa situation chez le duc de Penthièvre lui ôte toute inquiétude matérielle. Et le succès de ses ouvrages lui assure d'assez jolis bénéfices. Par exemple, Estelle lui rapporte beaucoup plus que La Nouvelle Héloïse et L'Émile de Jean-Jacques Rousseau. C'est pas un bouquin qui est de troisième ordre aujourd'hui, lui a rapporté beaucoup d'argent, alors des œuvres fondamentales comme La Nouvelle Héloïse, grand succès littéraire cependant, et L'Émile ont moins rapporté, les deux cumulés, à Jean-Jacques Rousseau.
Deux cumulés.
Comment ?
Oui, les deux cumulés, pas.
Oui, les deux cumulés, oui, voilà. Alors, il a su par ailleurs s'assurer 3000 livres de rente viagère, je ne sais pas par où, mais enfin, il les a en tout cas. Soucieux de ses intérêts, il s'est également usé à son bénéfice de l'influence de ses amis les mieux placés. Et dans sa correspondance littéraire, Grimm le définit ainsi avec ironie. Alors je le cite. Un petit quatrain mordant, un épigramme. génie actif, non pardon, génie actif et guerrier sage. Il se bat peu, mais il écrit. Il doit la croix à son esprit et le fauteuil à son courage. Alors, il a songé à se marier, mais ne s'y résout pas, souvent pour des motifs assez déplaisants. Nous allons le voir. Les passions de Florian ne dépassent jamais les limites que leur fixe la raison. Toujours maîtresse d'elle-même, il se fait aimer de Mademoiselle le Sénéchal, mais on voit sa flamme diminuer à mesure que la dot de sa fiancée paraît baisser, si bien que Mademoiselle le Sénéchal peut porter sur l'homme et ses bergeries. Peut porter sur l'homme ce jugement sévère. Écoutons-la bien, cette pauvre femme éconduite. « N'imaginez pas, écrit-elle, que ce soit l'homme de ses bergeries. Il a trop de probité pour être un séducteur, mais il a trop de prudence et de calcul pour être un émorin. » Le héros d'Estelle. Il songe un moment à épouser Mademoiselle Audio. Autre... Mais c'est un amour partagé, pourtant, auquel il renonce. Car si la jeune fille a des vertus et de la grâce, elle n'a point de fortune. Il se contente de la prendre pour modèle de Galatée et peut-être d'Estelle. Voilà. On a déjà évoqué sa liaison avec Rose Gontier, comédienne du théâtre italien, où il avait fait jouer ses comédies. Mais, pouvant aussi avoir ses heures de méchanceté, une tradition sérieuse, affirme qu'il la battait. Vous voyez, le personnage est ambigu. Cependant, ce monde.
Il n'est pas ambigu du tout.
Enfin, d'un côté, on est naïf et charmeur, et de l'autre, violent aujourd'hui, violence des femmes, ou comment on dit aujourd'hui, enfin, féminicide quand même. Enfin, violence des femmes. Voilà. Alors, cependant, ce mondain et cet ambitieux éprouve pour la solitude un penchant véritable. Et ses appels à une vie simple et ignorée du monde révèlent un des aspects les plus intéressants de son personnage complexe. Dans une lettre à l'une de ses amies, citée par Amine Malouf, il écrit. Voilà, ça va, alors, ce qu'il écrit à un de ses amis. « Je passe doucement ma vie au coin de mon feu, lisant Voltaire et fuyant les sociétés qui sont devenues des arènes affreuses où tout le monde est la raison, où les vertus ne sont même plus louées, où l'humanité, la première des vertus, et la modération, la première des qualités qui sont méprisées par tous les partis. Je me trouve fort bien de ma solitude. » Voilà ce qu'il écrit. Peut-être qu'il pourrait dire la même chose aujourd'hui de la société contemporaine. Hein. Bon, mais c'était la révolution quand même à l'époque. D'ailleurs, la morale d'une de ces femmes, devenue depuis une sorte de proverbe, affirme, et écoutons bien cela, mais vous connaissez tous, « Pour vivre heureux, vivons cachés. » Voilà, ça c'est Florian.
Ah ben quand même, il a son lueur. Voilà.
Il a quelquefois des lueurs de génie. Hein. Alors, je continue. Au fur et à mesure que les œuvres s'écoulent, Florian aspire, affirme-t-il, à la paix, la douce paix du cœur, écrit-il. Sa maladie, la phtisie, a développé en lui une mélancolie anormale pour son âge. Ainsi, écrit-il, le 19 octobre 1788 à Madame de Labriche, et je le cite, L'Académie avait grand tort de me reprocher ma jeunesse. Elle est loin de moi depuis longtemps. J'ai tous les goûts vieux, surtout celui de la retraite. Et je demande d'avance aux personnes qui ont de la bonté pour moi la permission de m'y livrer tout cet hiver. » Fin de citation. De sorte que le duc de Penthièvre lui a concédé dans le parc de Sceaux un petit pavillon qu'il appelle son petit ermitage, dans lequel il rêve de se claquemurer à la belle saison. Ses attitudes, son attitude à l'égard de la Révolution, c'est intéressant, est ambiguë, comme le personnage l'est aussi. Avant la Révolution, élevé à l'école de Voltaire, il souhaite une monarchie mesurée et libérale qui mette fin aux misères du temps. Il évoque avec éloquence le peuple esclave et s'élève contre la tyrannie des grands. C'est un esprit moyen qui semble suivre les mouvements de l'opinion plutôt que de les précéder, n'est-ce pas ? N'oublions pas qu'il est franc-maçon, appartenant donc à une instance qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité. Partisan des idées nouvelles, comme beaucoup de gens à l'heure, il n'a en réalité aucune réelle velléité révolutionnaire. Au cours de la Révolution, il applaudit aux réformes de l'Assemblée nationale, se lie avec l'un de ses présidents, son compatriote gardois Rabaud Saint-Étienne, dont j'ai parlé tout à l'heure, observant qu'il accepte d'être nommé commandant en chef de la garde nationale de Sceaux, et il écrit à Madame de Labriche le 16 novembre 1789 « J'approuve fort les derniers décrets de l'Assemblée. Ils ont prononcé sur les biens du clergé comme la raison avait prononcé depuis longtemps. Tout fini, tout a un terme, même les choses absurdes qui durent en vérité plus longtemps que les autres. » Mais pour juger sereinement des opérations nouvelles, il faut, ce me semble, écrit toujours Florian, se dépouiller en entier des vieilles idées, des opinions reçues, se mettre, pour ainsi dire, tout nu. Oh, combien de gens tiennent à leur fourrure. Mais Florian semble toutefois chercher le meilleur parti possible, chercher à tirer le meilleur parti possible de ses amitiés. Par exemple, il sollicite le bailli, maire de Paris, il finira mal, soit dit en passant, comme chacun le sait, un dégrèvement fiscal. Voilà, mais les massacres de septembre 1792 et la proclamation de la République le 22 septembre 1792 vont redoubler ses angoisses. S'il certifie son cynisme à Boissy-d'Anglas, il n'en confie pas moins à Madame de Labriche des regrets et des plaintes qui tiennent davantage du ci-devant marquis que du citoyen. Il aura beau témoigner d'un zèle révolutionnaire qui ne fera que croître à mesure que l'hostilité contre les gens d'Ancien Régime deviendra plus menaçante, la sincérité de ce soi-disant sans culotte pourra sembler malaisément acceptable. Aussi prononce-t-il des discours enflammés aux réunions de la Halle au Blé et propose-t-il de consacrer son talent à écrire pour la jeunesse une histoire qui montrera les méfaits de la monarchie et va-t-il jusqu'à composer sur l'air de la Carmagnole un hymne à la fraternité. Voilà. De sorte que les progrès ou les excès de la Révolution accroissent ses soucis. Patience et courage, telle semble être sa devise, probablement résignée. Il promène chez ses amis une mine sombre et découragée, dit sa volonté de se retirer du monde, et même, dans une lettre à Madame de Labriche du 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la République, il envisage clairement la possibilité d'émigrer. Peut-être aurait-il témoigné plus de dignité en gardant un silence qui aurait d'ailleurs servi mieux que des manifestations forcément suspectes, assurer sa tranquillité. Alors voilà ce qu'il en est de la vie de Florian. J'espère avoir été assez clair et peut-être vous avoir appris quelque chose sur ce personnage qui est un peu oublié aujourd'hui. Et je voudrais maintenant aborder la dernière partie de mon exposé, si vous me permettez. Je n'aborderai pas Estelle et Némora, j'aborderai seulement les fables. Parce que Estelle et Némora, franchement, je pense que ça vous enquiquinerait. Ça va pour les gens du Gard parce que c'est leur pays, mais pour des paysans,
les paysans de Paris.
Pour les paysans de Paris, comme tu dis, pour les paysans de Paris, ce serait un peu ennuyeux. Alors, voilà. Alors attendez, j'essaye de retrouver la partie sur les fables. Voilà, il va arriver. Paradoxalement, j'en avais écrit plus sur Estelle et Némorin que sur les fables, mais j'en arrive aux fables. Alors, attends, un tout petit instant. Parce que là-bas, Estelle et Némorin, dans le Gard, c'est encore des héros connus des vieilles personnes. Tels que moi, d'ailleurs. Alors, nous allons maintenant aborder, pour terminer ce petit exposé, la question des fables, puisque les fables, je pense que vous en avez tous lu, les fables de Florian, et que même, si j'en juge par mes souvenirs de l'école primaire à l'époque de la 4e République, on ne sait pas aujourd'hui, nous apprenions encore une ou deux fables de Florian, et je me souviens encore, je devais avoir 9 ou 10 ans, en 1950 et quelques, avoir appris la carpe et les carpillons, fable qui m'est revenue à l'esprit et que vous entendrez tout à l'heure admirablement dite par l'un des orateurs de cette assemblée. Alors, maintenant évoquons les fables. Les fables parurent donc en 1792. Son talent s'y montre au complet. Avec son naturel gracieux, sa diction facile et spirituelle, avec une morale aimable et bienveillante, mais qui n'exclut ni la raillerie ni la malice. Dixit Sandburg. Le contemporain de Florian, le critique littéraire La Harpe, que certains connaissent peut-être, qui est le fondateur de la critique littéraire française, dans son cours de littérature de 1799, écrit ceci à propos de Florian. Des nombreux recueils de fables qui ont paru dans ce siècle, celui-ci me paraît le meilleur. C'est celui où il me semble qu'on a le mieux saisi le véritable esprit et le véritable ton de la fable. La morale est généralement bien choisi et bien adapté au sujet. Le bon en tous les genres prédomine dans ce recueil. Le poète sait varier ses couleurs avec les sujets. Dans ses apologues, continue toujours. Ça c'est dans le dictionnaire des lettres françaises maintenant. Voilà ce que dit le dictionnaire, c'est un outil de travail très important, le dictionnaire des lettres françaises. Dans ses apologues, Florian prouve que son talent ne se définit pas seulement par l'effusion attendrie, à la différence de ses pastorales. Sa diction, il est vrai, demeure trop souvent coulante jusqu'à la mollesse, comme un camembert en quelque sorte. Je continue. Il n'a ni l'énergie concentrée de La Fontaine, ni la puissance de suggestion poétique. Le lyrisme de Florian reste dans les tons mineurs, tombe dans le prosaïsme, mais il sait ajuster un trait, manier l'ironie, aiguiser une maxime en épigramme, écrit donc le dictionnaire des lettres françaises, dans le volume du XVIIIe siècle, hein, s'entend bien. Sa philosophie est courte. Jouissons, avait affirmé le poète Saint-Lambert, qui est un contemporain de Florian. Florian en chérit. Le bonheur n'est pas dans les cieux. Il est près d'une bonne amie. Voilà. Ah, il est près d'une bonne amie, le bonheur. Mais borner la doctrine du fabuliste à une morale aimable et bienveillante, comme l'écrit Sainte-Beuve, est un peu injuste. Ces apologues ne reflètent pas l'optimisme béat qu'on lui reproche trop souvent. Peu s'en faut qu'il ne soit plus désenchanté que ceux de La Fontaine. Sans doute Florian conseille-t-il l'entraide et la bienfaisance, nous verrons. Mais il est sans illusion. Il sait que l'égoïsme conduit les hommes. Il connaît leur vanité et leur sottise, leur cruauté envers leurs semblables, envers les animaux qui les servent, leur ingratitude. Voici par exemple ces deux vers. Comptez sur la reconnaissance quand l'intérêt vous en répond. Ou encore, l'orgueil, l'intérêt, la folie troubleront toujours l'univers. Comment fait-on carrière en ce monde ? Non pas par le mérite, et voilà ce qu'il écrit. Sois un simple imbécile, j'en ai vu beaucoup réussir. qu'est-ce qu'il dit encore ? Et il voit partout le faible terrassé et le sage récompensé. Donc, il est quand même pessimiste. Alors, la sagesse de savoir plier, la sagesse, dit-il, est de savoir, et je cite son expression, plier les genoux. Se soumettre. Seuls les flatteurs avec les sots parviennent aux dignités. Vanité, cependant, que la gloire. L'ennui est le profit de la grandeur, dit-il. L'ennui est le profit de la grandeur. Enfin, le petit neveu de Voltaire ne perd pas une occasion de dénoncer la faiblesse de la raison et l'outrecuidance de la métaphysique. C'est un peu paradoxal. Ces leçons, qu'on peut qualifier d'amères et désabusées, comment les accorder avec l'optimisme attendri qui règne dans ces pastorales et qui, dans la fable, se montre ça et là ? On est fort tenté de répondre que la sensibilité appartient à une époque où l'on pleurait beaucoup. Du 18e siècle, on y va beaucoup des larmes, la sensibilité, la sensiblerie. On serait plus près de la vérité en distinguant chez Florian, ainsi qu'en beaucoup de ses contemporains, la part de Voltaire comme le premier homme de l'Europe, supérieur par son génie au reste des hommes. Ça, c'est ce que dit Florian. Il n'en est pas moins vrai que l'influence de Jean-Jacques Rousseau est tout à fait frappante. La vie champêtre, les mœurs rustiques sont préférables aux complications du luxe, l'intérêt pour les animaux qui partagent l'existence des paysans, l'importance de l'habileté manuelle et des travaux matériels et surtout la célébration des beautés de la nature sont seuls capables d'élever l'homme au-dessus de lui-même. Voilà la philosophie de Florian. Quelquefois, le titre de la fable est resté. Voilà un exemple. Le titre de la fable est resté, écrit Amin Malouf, mais sa leçon a été mal comprise, comme pour l'aveugle et le paralytique. À l'instar d'Ésope, dont il s'est inspiré, Florian voulait louer l'ingéniosité des deux infirmes, unissant leurs forces pour surmonter leur handicap respectif. Et je cite ces vers de l'aveugle et du paralytique que vous entendrez intégralement tout à l'heure. « Moi, je vais vous porter, vous, vous serez mon guide. Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés, mes jambes à leur tour iront où vous voulez. » Ainsi, sans que jamais notre amitié décide, qui de nous deux remplit le plus utile emploi, je marcherai pour vous. Vous y verrez pour moi. Alors, cependant, peut-être par la faute du caricaturiste Daumier au XIXe siècle, qui s'en servit pour brocarder Talleyrand et Louis-Philippe. Talleyrand était boiteux, comme vous le savez, et Louis-Philippe était un aveugle en politique. Il s'est fait renverser en 3 jours, même pas, 24 février 1848. On disait de Talleyrand et de Louis-Philippe, l'aveugle et le paralytique. Voilà. L'union de la... Alors, aujourd'hui, quand on cite cette fable, l'aveugle et le paralytique, voilà ce qu'on pense. L'union de l'aveugle et du paralytique a pris, donc, dès le XIXe siècle, une signification opposée à ce que l'auteur souhaitait, désignant désormais une association inutile et quelque peu ridicule. Alors, quand on dit aujourd'hui l'aveugle et le paralytique, c'est ridicule, évidemment. Ces gens qui ne peuvent rien faire. Alors qu'au contraire, là, c'était l'ingéniosité que voulait évoquer Florian. Alors, on s'accorde à donner à Florian le second rang dans le domaine des fables après La Fontaine. Cependant, remarque Sainte-Beuve, je le cite, « Entre ce second rang et le premier, donc entre Florian et La Fontaine, il ne faut pas même essayer de mesurer la distance. » dit Sainte-Beuve. Bon. Et il précise, c'est la haute poésie qui lui fait défaut. Cette poésie qui naît de trop nulle part, et dont les éclairs traversent et agrandissent si souvent les horizons de La Fontaine. Là où l'esprit et la grâce peuvent suppléer à la poésie, là où il suffit de bien compter et d'égayer le récit par un trait agréable, Florian s'en tire à merveille. Voilà. Donc, je vous propose, avant de conclure, maintenant, que nous écoutions, grâce à nos amis orateurs, 6 fables de Florian, 6 fables que je n'ai pas choisies arbitrairement, n'est-ce pas, voulant pas prendre une responsabilité excessive. C'est Sainte-Beuve qui considère que les 5 meilleures fables de Florian sont les suivantes. Je cite les titres. L'aveugle et le paralytique, le grillon, le hibou, le chat, l'oison et le rat, le pacha...
Il n'y a pas le grillon, en fait, dans la...
Comment, il n'y a pas le grillon?
Non.
Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça?
Le hibou,
alors?
Ça commence
le hibou.
Ah bon, alors, le grillon, alors, peut-être tout seul.
Non.
Alors, parce que moi, j'ai cité cette...
Ah, ouais, mais alors... c'est cette fable-là, mais il n'y a pas de grillon.
Ah, il n'y a pas de grillon.
Ah bon, alors. Il y a peut-être un loup, un lapin, ou un mouton.
Comment dit-on, le grillon, c'est le foyer.
Le grillon
du foyer. Alors, sans doute, les gens s'est rendu dans ma cheminée. Voilà. Alors, je redis. L'aveugle et le paralytique, le hibou, le chat, l'oison et le rat, le pacha et le dervis, le sage qui montre la lanterne magique, et enfin le lapin et la sarcelle, et aussi la carpe et les carpillons. Et je laisse maintenant nos amis le soin de dire ces fables.
Alors, la carpe et les carpillons. Prenez garde, mes fils, côtoyez-moi le bord, suivez le fond de la rivière, craignez la ligne meurtrière ou l'épervier plus dangereux encore. C'est ainsi que parlait une carpe de Seine. À de jeunes poissons qui l'écoutaient à peine, c'était au mois d'avril, les neiges, les glaçons fondus par les zéphyrs descendaient des montagnes. Le fleuve enflé par eux s'élève à gros bouillons et déborde dans les campagnes. « Ah ah !» criaient les carpillons. « Qu'en dis-tu, carpe radoteuse ? Crains-tu pour nous les hameçons ? Nous voilà citoyens de la mer orageuse. Regarde, on ne voit plus que les eaux et le ciel. Les arbres sont cachés sous l'onde. Nous sommes les maîtres du monde. C'est le déluge universel. « Ne croyez pas cela, » répond la vieille mère. « Pour que l'eau se retire, il ne faut qu'un instant. » ne vous éloignez point et de peur d'accident, suivez toujours le fond de la rivière. Bah, disent les poissons, tu répètes toujours le même discours. Adieu, nous allons voir notre nouveau domaine. Parlant ainsi, nos étourdis sortent tous du lit de la Seine et s'en vont dans les eaux qui couvrent le pays. Qu'arriva-t-il ? Les eaux se retirèrent et les carpillons demeurèrent. Bientôt, ils furent pris et frits. Pourquoi quitter la rivière ? Pourquoi ? Je le sais trop, hélas. C'est qu'on se croit toujours plus sage que sa mère. C'est qu'on veut sortir de sa sphère. C'est que... Je le finirai.
Bravo.
Alors, l'aveugle et le paralytique.
L'aveugle.
Le paralytique. Qu'est-ce que j'ai dit ?
L'aveugle.
J'ai dit l'aveugle.
L'aveugle.
Oui.
L'aveugle.
Excusez-moi. Aidons-nous mutuellement. La charge des malheurs en sera plus légère. Le bien que l'on fait à son frère pour le mal que l'on souffre est un soulagement. Confucius l'a dit. Suivons tous sa doctrine. Pour la persuader au peuple de la Chine, il leur contait le trait suivant. Dans une ville de l'Asie, il existait deux malheureux, l'un perclus, l'autre aveugle et pauvres tous les deux. Ils demandaient au ciel de terminer leur vie. Mais leur cri était superflu, ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique, couché sur un grabat dans la place publique, souffrait sans être plaint. Il en souffrait bien plus. L'aveugle à qui tout pouvait nuire était sans guide, sans soutien, sans avoir même un pauvre chien pour l'aimer et pour le conduire. Un certain jour, il arriva. Que l'aveugle, à tâtons, au détour d'une rue, près du malade se trouva. Il entendit ses cris, son âme en fut émue. Il n'était que les malheureux pour se plaindre les uns les autres. « J'ai mes mots, lui dit-il, et vous avez les vôtres. Unissons-les, mon frère, ils seront moins affreux. Hélas, dit le perclus, vous ignorez, mon frère, que je ne puis faire un seul pas. Vous-même n'y voyez pas. À quoi nous servirait d'unir notre misère ? À quoi ? Répond l'aveugle. Écoutez, à nous deux, nous possédons le bien à chacun nécessaire. J'ai les jambes et vous des yeux. Moi, je vais vous porter. Vous serez mon guide. Vos yeux dirigeront mes pas, m'as assuré. Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez. Ainsi, sans que jamais notre amitié décide, qui de nous deux remplit la plus utile emploi, je marcherai pour vous. Vous verrez pour moi.
Quoi ? Le hibou, le chat, l'oison et le rat. Des jeunes écoliers avaient pris dans un trou un hibou et l'avaient élevé dans la cour du collège. Nourri par le portier, un vieux chat, un jeune oison nourri par le portier était en liaison avec l'oiseau. Tous trois avaient le privilège d'aller et de venir par toute la maison. À force d'être dans la classe, ils avaient orné leur esprit, savaient par cœur Denis d'Halicarnasse et tout ce qu'Hérodote et Tite-Live ont dit. Un soir, en disputant des docteurs, c'est l'usage, ils comparaient entre eux les peuples anciens. « Ma foi, disait le chat, c'est aux Égyptiens que je donne le prix. C'était un peuple sage, un peuple ami des lois, instruit, discret, pieux, rempli de respect pour ses dieux. Cela seul, à mon gré, lui donne l'avantage. « J'aime mieux les Athéniens, répondit le hibou. Que d'esprit, que de grâce, et dans les combats, quelle audace !» Que d'aimables héros parmi leurs citoyens a-t-il jamais plus fait avec moins de moyens ? Des nations, c'est la première. Parbleu, dit l'oison en colère, messieurs, je vous trouve plaisant. Et les Romains, que vous ensemble ? Est-il un peuple qui rassemble plus de grandeur, de gloire et de faits éclatants ? Dans les arts comme dans la guerre, ils ont surpassé vos amis. Pour moi, ce sont mes favoris. Tout doit céder le pas au vainqueur de la terre. Chacun des trois pédants s'obstine en son avis. Quand un rat, qui de loin entendait la dispute, rat savant qui mangeait des thèmes dans sa hutte, leur cria « Je vois bien d'où viennent vos débats. L'Égypte vénérait les chats, Athènes les hiboux et Rome au Capitole, aux dépens de l'État, nourrissait des oiseaux. Ainsi, notre intérêt est toujours la boussole que suivent nos opinions. »
Le pacha et le dervi. Un arabe à Marseille autrefois m'a conté qu'un pacha turc dans sa patrie vint porter certains jours un coffret acheté au plus sage dervi qui fut en Arabie. Ce coffret, lui dit-il, renferme les ruines, les diamants d'un très grand prix. C'est un présent que je veux faire à l'homme que tu jugeras être le plus fou de la terre. Cherche bien, tu le trouveras. Muni de son cornet, notre bon solitaire s'en va courir le monde. Avait-il donc besoin d'aller si loin? L'embarras de choisir était sa grande affaire. Des fous, toujours plus fous, venaient de toutes parts se présenter à ses regards. Notre pauvre dépositaire, pour l'offrir à chacun, saisissait le coffret. Mais un pressentiment secret lui conseillait d'en rien faire, l'assurait qu'il trouvait mieux, errant ainsi de jeu en jeu, embarrassait de son message. Enfin, après un long voyage, notre homme et le coffret arrivent en matin dans la ville de Constantin. Il trouve tout le peuple en joie. Que s'est-il donc passé? Rien, lui dit un imam. C'est notre grand vizir que le sultan envoie au moyen d'un lacet de soie. Portez au prophète un firman. Le peuple rit toujours de ces sortes d'affaires, et comme ce sont des misères, notre empereur souvent lui donne le plaisir. Souvent? Oui, c'est fort bien. Notre nouveau vizir est-il nommé? Sans doute, et le voilà qui passe. Le dervi, à ces mots, court, traverse la place, arrive et reconnaît le pacha, son ami. Bon, te voilà, dit-il. Et le coffret? Seigneur, j'ai parcouru l'Asie. J'ai des tout parfaits, mais sans oser choisir. Ajoute, aujourd'hui ma course est finie. Daignez l'accepter, grand vizir.
Le singe qui montre la lanterne magique. Messieurs les beaux esprits, dont la prose et les vers sont d'un style pompeux et toujours admirable, mais que l'on n'entend point, écoutez cette fable et tâchez de devenir clair. Un homme qui montrait la lanterne magique avait un singe dont les tours attiraient chez lui grand concours. Jaco, c'était son nom, sur la corde élastique dansait et voltigeait au mieux, puis faisait le saut périlleux, et puis sur un cordon, sans que rien le soutienne, le corps droit, fixe, d'aplomb, notre Jaco fait tout du long l'exercice à la prussienne. Un jour qu'au cabaret son maître était resté, c'était je pense un jour de fête, notre singe en liberté veut faire un coup de sa tête. Il s'en va rassembler les divers animaux qu'il peut rencontrer dans la ville, chiens, chats, poulets, dindons, pourceaux, arrive bientôt à la file. « Entrez, entrez, messieurs !» criait notre Jaco. « c'est ici qu'un spectacle nouveau vous charmera gratis. »« Oui, messieurs, à la porte, on ne prend point d'argent. Je fais tout point l'honneur. » À ces mots, chaque spectateur va se placer et l'on apporte la lanterne magique. On ferme les volets et par un discours fait exprès, Jaco prépare l'auditoire. Ce morceau vraiment oratoire fit bâiller. Mais on applaudit. Content de son succès, notre singe saisit un verre peint qu'il met dans sa lanterne. Il sait comment on le gouverne, et criant le poussant, « Est-il rien de pareil ? Messieurs, vous voyez le soleil, ses rayons et toute sa gloire. Voici présentement la lune et puis l'histoire d'Adam, d'Ève et des animaux. Voyez, messieurs, comme ils sont beaux. Voyez la naissance du monde. Voyez !» Les spectateurs, dans une nuit profonde, écarquillaient les yeux et ne pouvaient rien voir. L'appartement, le mur, tout était noir. « Ma foi, disait un chat, de toutes les merveilles dont il étourdit nos oreilles, le fait est que je ne vois rien. »« Ni moi non plus, disait un chien. »« Moi, disait un dindon, je vois bien quelque chose, mais je ne sais pour quelle cause, je ne distingue pas très bien. » Pendant tous ces discours, le cicéron moderne parlait éloquemment et ne se lassait point. Il n'avait oublié qu'un point. C'était d'éclairer sa lanterne.
Alors,
le lapin et la sarcelle, unis dès leurs jeunes ans d'une amitié fraternelle, un lapin, une sarcelle vivaient heureux et contents. Le terrier du lapin était sur la lisière d'un parc bordé d'une rivière. Soir et matin, nos bons amis, profitant de ce voisinage, tantôt au bord de l'eau, tantôt sous le feuillage, l'un chez l'autre étaient réunis. Là, prenant leur repas, se contant des nouvelles, ils n'en trouvaient point de si belles que de répéter qu'ils s'aimeraient toujours. Ce sujet revenait sans cesse en leur discours. Tout était en commun. Plaisir, chagrin, souffrance, ce qui manquait à l'un, l'autre le regrettait. Si l'un avait du mal, son ami le sentait. Si d'un bien au contraire il goûtait l'espérance, tous deux en jouissaient d'avance. Tel était leur destin, lorsqu'un jour, jour affreux, le lapin pour dîner, venant chez la sarcelle, ne la retrouve plus. Inquiet, il l'appelle. Personne ne répond à ses cris douloureux. Le lapin de frayeur, l'âme toute saisie, « Va, viens, fais mille tours, cherche dans les roseaux. » S'incline par-dessus les flots et voudrait s'y plonger pour trouver son ami. « Hélas, s'écriait-il, m'entends-tu? Réponds-moi. Ma sœur, ma compagne chérie, ne prolonge pas mon effroi. Encore quelques moments, c'en est fait de ma vie. » J'aime mieux expirer que de trembler pour toi. » Disant ces mots, il court, il pleure, et s'avançant le long de l'eau, avance enfin près du château où le seigneur du lieu demeure. Là, notre désolé lapin se trouve au milieu d'un parterre et voit une grande volière où 1000 oiseaux divers volaient sur un bassin. L'amitié donne du courage. Notre ami, sans rien craindre, approche du grillage, regarde et reconnaît, ô tendresse, ô bonheur, la sarcelle. Aussitôt, il pousse un cri de joie et, sans perdre de temps à consoler sa sœur, de ses quatre pieds, il s'emploie à creuser un secret chemin pour joindre son ami. Et par ce souterrain, le lapin, tout à coup, entre dans la volière, comme un mineur qui prend une place de guerre. Les oiseaux effrayés se pressent en fuyant. Lui court à la sarcelle, il l'entraîne à l'instant dans son obscur sentier, la conduit sous la terre et la rendant au jour, il est prêt à mourir de plaisir. Quel moment pour tous deux! Que ne sais-je le peindre, comme je saurais le sentir? Nos bons amis croyaient n'avoir plus rien à craindre. Ils n'étaient pas au bout. Le maître du jardin, en voyant le dégât commis dans sa volière, jure d'exterminer jusqu'au dernier lapin. « Mes fusils, mes furets !» crie-t-il en colère. Aussitôt, fusils et furets sont tout prêts. Les gardes et les chiens vont dans les jeunes tailles, fouillant les terriers, les broussailles. Tout lapin qui paraît trouve un affreux trépas. Les rivages du Styx sont bordés de leurs mânes dans le funeste jour de Cannes. On mit moins de Romains à bas. La nuit vient, tant de sang n'a point éteint, la rage du Seigneur qui remet au lendemain la fin de l'horrible carnage. Pendant ce temps, notre lapin, tapi sous des roseaux auprès de la sarcelle, attendait en tremblant la mort. Mais conjurait sa sœur de fuir à l'autre bord pour ne pas mourir devant elle. « Je ne te quitte point, lui répondait l'oiseau. Nous séparer serait la mort la plus cruelle. Ah, si tu pouvais passer l'eau. Pourquoi pas? Attends-moi. » La sarcelle le quitte et revient traînant un vieux nid. Laissé par des canards, elle l'emplit bien vite de feuilles de roseau, les presse, les unit, des pieds, du bec, en forme un batelet capable de supporter un lourd fardeau. Puis elle attache à ce vaisseau un brin de jonc qui servira de câble. Cela fait, et le bâtiment mis à l'eau, le lapin entre tout doucement dans le léger esquif, s'assied sur son derrière, tandis que devant lui, la sarcelle nageant tire le brin de jonc et s'en va dirigeant cette nef à son cœur si cher. On aborde, on débarque, et jugé du plaisir, bon loin du port, on va choisir un asile où coulant des jours dignes d'envie, nos bons amis, libres, heureux, aimèrent d'autant plus la vie qu'ils se la devaient tous deux.
Merci à nos lecteurs. Et si vous me permettez, je vais conclure. Que dire en définitive de l'œuvre de Florian? Alors, il est admis aujourd'hui que dotée de qualités moyennes, cette œuvre manque de profondeur. Est en partie le fruit de diverses influences. On a pu le voir avec ces fables. Si Florian aimait incontestablement la nature et que son attachement à la terre natale n'est pas fin, tel qu'en témoigne en particulier dans Estelle le salut à l'Occitanie, le tableau du vallon d'Anduze et l'évocation du départ du troupeau, l'influence des Espagnols est perceptible. Dans De Galatée à Gonsalves, il s'est inspiré d'eux. Rappelons qu'il a traduit Don Quichotte de Cervantes et qu'il a affirmé devoir au fabuliste espagnol Iriarte ses apologues les plus heureux. Florian est attiré par le genre sentimental et la littérature vertueuse. Séduit comme beaucoup à l'époque par Jean-Jacques Rousseau, il lui a emprunté tous ses défauts, la grandiloquence, les artifices de style, le ton oratoire. Mais le secret de son génie lui a échappé. Le culte qu'il voue à Voltaire aurait cependant dû lui apprendre le dégoût du faux langage. Il semble qu'il se soit inspiré du penseur sans rien devoir à l'écrivain. Son optimisme est irritant à force d'invraisemblance. L'on sait depuis longtemps, comme le disait André Gide, qu'on ne produit guère de bonne littérature avec de bons sentiments. Le souci de Florian de peindre les hommes toujours bons, les guerriers toujours généreux, les femmes toujours fidèles, et l'amour toujours chaste, témoigne d'une singulière puérilité. Il faut lire Estelle à 14 ans et demi, écrivait Sainte-Beuve. À 15 ans, pour peu qu'on soit précoce. Et après, il est déjà trop tard. Bon. Pour la forme, son manque de simplicité, sa recherche de l'effet, la profusion des métaphores et des périphrases, son incapacité à peindre le réel et à user de mots propres du mot propre, dénote une complaisance de préciosité. On peut s'en rendre compte un peu dans ces fables. À des dons naturels abondants, une culture plus profonde et plus sûre, hein, c'est un manque, aurait pu venir ajouter des correctifs indispensables, tels la mesure, la sincérité, pour soi-même, sans oublier le goût. Ses fables, ses mémoires d'un jeune espagnol, sa correspondance montrent qu'il n'était pas incapable de s'évader de la monophonie du plus fade et du plus faux des sentimentalismes. car il est l'auteur de pages rapides, écrites d'un ton enjoué, parfois assez leste, et qui, comme l'écrivait Sainte-Beuve, sentent bon la garnison. Bon, tout cela a pourtant fait les délices du XVIIIe siècle, le finissant. Il avait su répondre aux aspirations d'une société aimable et spirituelle. Bien qu'il semble presque oublié de nos jours, son œuvre témoigne cependant des premiers frémissements d'une mentalité et d'une sensibilité nouvelle, préfigurant la sensibilité romantique. Toutefois, à propos de ces premiers frémissements de la sensibilité romantique et de la pastorale estelle, Sainte-Beuve est bien obligé d'en relativiser la portée. C'est en effet Paul et Virginie de Bernard de Saint-Pierre, et publié à la même année qu'Estelle en 1787, qui succède dans notre jeune admiration à cette première esquisse trop fade de Florian, et qui mérite d'y rester, n'est-ce pas, Paul et Virginie, comme la page idéale et durable. Toutes les critiques à faire et les meilleures sur ce sujet sont faites alors. Dans la biographie ancienne et moderne, on qualifie ainsi le poète, et je le cite. Florian avait reçu de la nature des qualités qui le distinguent comme écrivain, qui ne le distinguent comme écrivain que dans une certaine mesure, et qui ne lui a guère permis de sortir de la médiocrité. Ne s'étant jamais élevé de beaucoup, il n'est jamais tombé de bien haut. C'est pas moi qui le dis. N'ayant rien hasardé, il n'a commis aucune erreur très remarquable. Et on le lit donc avec plaisir. Alors là, ce qu'il s'est dit, la biographie, là, on le lit donc avec plaisir. On peut l'oublier après l'avoir lu, sans éprouver ni le besoin ni la crainte de le relire encore. Ah, les gens sont cruels. Oui, ce commentaire cruel est cité par Amine Malouf dans son bouquin sur le 29e fauteuil. Alors, certains ont cru pouvoir penser que Florian était mort trop jeune. Là, j'aimerais quand même qu'on dise cela, parce que était mort trop jeune pour avoir pu donner toute sa mesure. Alors, opposons-lui, si vous le voulez bien, d'autres créateurs morts encore plus jeunes que lui. Alors, par exemple, il y a à tous les esprits, Mozart, son exact contemporain, né en 1786 et mort en 1791. Mozart, à 35 ans, laisse une œuvre aboutie qui compte parmi les sommets de l'esprit humain, n'est-ce pas ? Nous pouvons encore citer Franz Schubert, mort à 31 ans, ou Blaise Pascal, mort à 39 ans, comme Florian, n'est-ce pas ? Ou encore plus près de nous, Guillaume Apollinaire, mort au même âge que Florian à 38 ans. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur Florian, et je vous remercie de votre bienveillante attention.
Merci, cher Jean-Noël. Tu l'as un peu habillé pour l'hiver, là, quand même. Hein,
ça tombe bien, c'est la saison.
Absolument, oui.
Bon,
tu as rapporté un peu avec une certaine complaisance ce portrait un peu, disons, pas vraiment ambigu, là, finalement.
Non, je pense qu'avec un écrivain qui a compté comme Florian, qui n'a plus d'influence aujourd'hui, je crois quand même que on aurait tort, ce serait malvenu et inadapté de le faire avec pédanterie, parce que ça ferait vieil universitaire grisonnant, spécialiste d'un poète qu'on ne connaît plus et qui a passé toute sa vie à étudier dans les grimoires pour sortir un ouvrage complètement gris. Alors j'ai préféré l'aborder objectivement, J'ai été objectif, j'ai pris tous les commentaires, je ne les ai pas faits moi-même, je les ai pris dans l'histoire de la littérature. Tout ce qui est dans ce texte exposé,
comment ? L'Henri Florian,
oui, bien sûr.
C'est le procureur à charge,
quand même. Absolument.
Comment ?
Tu es un peu le procureur à charge. Tu es un rapporteur complaisant.
On peut se poser quand même une question.
Oui.
Tu as dit souvent, pourquoi avait-il tant de succès ?
Et oui,
on peut se poser la question de réfléchir à ça.
Parce que
l'intérêt de Florian, quand même, si on veut le comparer au premier fabuliste qui est Fontaine,
qui
est considéré comme le second,
oui.
C'est qu'il a une langue, il écrit comme tout le monde parle. Okay. Alors que la langue de La Fontaine est une langue élaborée. Et lui, il écrit comme tout le monde parle. Et les conclusions de ses fables sont restées dans le langage populaire et dans la connaissance populaire beaucoup plus que celles de La Fontaine. Et parfois, il écrit des choses intéressantes, plus élaborées.
Alors, moi, je voudrais...
Et qui mettent des choses en question, comme l'a fait La Fontaine, par exemple. Dans Le Roi et les deux bergers. Le roi, il dit, je ne comprends pas, je suis roi, personne ne m'écoute, je donne des ordres, personne ne m'écoute, c'est la catastrophe, etc. Il s'adresse à un deuxième berger, il dit... Toi, tes bergers, ils courent n'importe comment, ils s'adossent à l'autre berger, ils disent, il faudra que tu m'expliques ton secret, parce que toi, tes moutons, ils sont vachement bien ordonnés, ils obéissent bien, etc. Conclusion de la fable, sire, dit le berger, la chose est fort facile. Tout mon secret consiste à bien choisir ses chiens.
Et puis il y a aussi...
Ça, c'est resté dans le langage populaire. Et... Oubliez pas tout à fait, parce que moi qui suis ni moins, qui suis donc né en 1947, à l'école primaire, on nous apprenait du Florian avant de La Fontaine.
Surtout dans le Gard.
Parce que très tôt, les fables de Florian sont accessibles à des enfants jeunes. Alors que certains La Fontaine ne le sont pas. Et ça explique aussi son succès. Et je me souviens que des instituteurs amenaient leurs enfants à la statue de Florian dans les jardins de La Fontaine à Nîmes, réciter du La Fontaine autour de sa statue. Donc il n'était pas tout à fait oublié. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'ai plutôt tendance qu'à l'école, on lit Harry Potter plutôt que les poètes. Mais il n'est pas tout à fait oublié, et je ne sais pas s'il sera oublié un jour. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Et il n'était pas inconscient de ses failles, parce qu'il a écrit un essai qui s'appelle « De la fable », où il se compare à La Fontaine et où il dit ce qu'est une fable. C'était aussi un homme lucide et qui savait écrire. Aurait-il eu une œuvre meilleure s'il avait vieilli plus tard ? Ça, personne ne le sait, bien entendu.
Mais je ne voudrais pas avoir, comment dirais-je, dénigré Florian. J'ai lu beaucoup de Florian, enfin pas absolument tout, mais par exemple, je recommande volontiers la lecture des Mémoires d'un jeune Espagnol, qui est un document extrêmement intéressant sur les célébrités du XVIIIe siècle. Parce qu'en fait, il suffit de transposer les noms espagnols en noms français, il y est évoqué Voltaire et donc beaucoup d'autres personnes et des événements historiques du temps. Ça, c'est sûr.
Alors, il n'est plus édité maintenant, mais je signale à tous ceux qui seraient un peu le moins intéressés que si vous allez sur la bibliothèque Gallica de la Nef, vous trouverez toute l'œuvre de Florian.
Très bien.
Moi, je l'ai
22 volumes.
Merci en tout cas pour cette intervention. Il est l'heure de nous écoutions. Merci beaucoup de votre écoute. Et à un mois prochain.
Allez, Caroline.
On paye à monsieur là. Tu as
Je te relance. Mais c'est à Venise. Ah non, c'est un gâteau. Merci. Je vais l'emporter. Je
sais. Oui, c'est pourquoi.
Merci, c'est gentil.
On était à Nice, on est passé devant Florian.
D'accord.
On a pensé à ça.
C'est
très. Oui, Florian,
mais d'accord,
c'est ça.
Voilà, voilà.
Merci, Bernard.
Non, c'est
bien. Pas ennuyeux.
Non, 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 du tout, du tout, du tout.
J'arrive. Je me lève.
Non, pas trop, un petit peu, je sais pas. Mais...
Remarquez. C'est sympa, le jeu.
Ah, bordel.
Merci beaucoup.
C'était bien, c'était bien. Vous venez le mois prochain.
Certains mettent en doute.
C'est un peu marrant. Voilà.
Donne-moi ça.
Merci. Merci. Oui.
Je suis pas simplement.
Ah, j'en aurais pour lui, très très bien, j'en aurais. Attendez deux secondes.
Je vous en prie.
Camura. Merci à vous.
Non, c'était bien.
Ah oui,
ça compte.
Ah oui, très agréable.